Pro-Anna.
Pro-Anna.
Waouh. Pro-anorexie, du coup, de ce que je comprends. Il y a plein de trends, dans tous les cas, sur TikTok, qui tournent vachement autour de la nourriture. Les girls dinner, tout ça, où on mange 3 olives et 2 cornichons dans la soirée.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles au Gai Savoir. Bienvenue dans Zoom Zoom Zen chaque après-midi. 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses tendances. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène aussi déroutant qu'affolant. On l'appelle le mouvement Pro-Anna. Et il réunit, essentiellement sur les réseaux sociaux, des gens victimes d'anorexie qui, loin de chercher à guérir, s'encouragent au contraire à manger toujours moins. Je me souviens, on a eu l'idée de ce thème lors d'un déj d'équipe au bistrot Blériot. William, le patron du restaurant, également auteur du best-seller qui a ébranlé le monde de la diététique l'année dernière, il n'y a pas de mauvais cholestérol. William venait donc de nous présenter son plat du jour, une andouillette sur laquelle il ne tarissait pas d'éloges.
Ah, bijou mon andouillette, petit producteur du côté de Roanne, beaucoup de goût. Alors, question odeur évidemment, on est sur le slip de Tranier après un 3e rappel à l'Olympia, mais je en vaut la chandelle les copains.
Alors que Manon s'éclipse au sanitaire pour vomir et que Cyril Lacarrière, notre rédac-chef, déclare « Tu m'en mettras deux », je tente pour ma part d'expliquer à William ce qu'est le mouvement Pro-Anna. Très vite, il comprend que ce sont des gens qui ne mangent jamais d'andouillettes. C'est le premier choc. En effet, jamais William n'avait pris le temps de réfléchir au fait que certaines personnes pouvaient décider de se priver volontairement d'andouillettes. Il devient livide, se laisse tomber sur une chaise et quand on lui apprend qu'une personne Pro-Anna peut se contenter de manger 3 feuilles de salade et une clémentine sur une journée, ses yeux se révulsent, son corps pris de spasmes convulse, un peu comme Pierre dans la dernière ligne droite du Dry January. Immédiatement, Christine, son épouse, se porte à son secours pour les premiers soins, un Jéroboam de Morgon. Puis, très vite, Ishan, Rizwan, Tariz, Shian et Bounan, les 17 Pakistanais qui œuvrent dans les cuisines du Blériot et à qui un jour William rendra leur passeport, il leur a promis, accourent eux aussi pour intuber leur patron à la double crème de gruyère. 10 minutes plus tard, William était sauvé.
Ah, vous m'avez bien eu. Des gens qui mangent pas d'andouillettes, j'ai failli croire à vos conneries.
Nous n'avions ce stade pas le cœur à dire à William que le mouvement Pro-Anna n'était pas une connerie, qu'il existait vraiment et que même il gagnait du terrain. On espère donc qu'il n'écoute pas cet après-midi, c'est peut-être mieux. Mais en fait, il écoute. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Jean-Victor Blanc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Jean-Victor, vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous enseignez à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste des addictions, en particulier aux nouveaux produits de synthèse. Et vous êtes un passionné de pop culture. Par ailleurs, vous avez créé un festival consacré à la santé mentale qui s'appelle Pop and Psy et sorti un livre, Pop and Psy, Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques aux éditions Plon. Un livre dans lequel vous explorez notamment les troubles du comportement alimentaire. On va y revenir ensemble. Juste le temps de vous présenter 2 journalistes qui présentent de nombreux troubles, mais pas alimentaires. Manon Mariani, Quentin Lhuy, bonjour.
Bonjour. Allez,
bonjour.
Bonjour à tous.
Manon,
oui,
que votre côté filiforme n'inquiète pas nos auditeurs, vous n'êtes pas du tout dans la mouvance Pro-Anna, vous avez juste un excellent transit. Et...
Merci de le préciser, Mathieu.
Je révèle nos petits secrets.
J'aime pas l'andouillette.
On a tous des... Non, ça c'est vrai. Chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Une créatrice de contenu française qui alerte sur les comportements du trouble alimentaire depuis des années, elle-même étant sujette à ça.
Face à vous, Jean-Victor, il est le représentant d'un mouvement certes moins dangereux que le mouvement Pro-Anna, mais qui ne va pas s'en poser question quand même, le mouvement Pro-Chipo. Chaque midi, à la cantine, en dépit des affichettes qui incitent à manger des fruits et des légumes et à limiter les apports en protéines, Quentin ne jette même pas un œil au menu du jour, il fonce directement vers le stand grillade pour son combo habituel merguez frites. Combien de temps avant qu'il ne rentre à nouveau dans son tristement célèbre pull blanc de Noël 2022? Les paris sont ouverts.
Par
votre compagne, j'imagine. Évidemment. Heureusement, Quentin, vous faites de l'exercice. Chaque matin, vous sillonnez les rues pour faire, pour faire réagir les patients notre mot du jour.
Je dois bien marcher 3 km de plus par jour que vous, Mathieu Noël. Ça mérite bien de merguez. Alors, l'anorexie, sans transition, eh bien, je me suis rendu compte que c'était tabou. J'ai arrêté de compter le nombre de refus que j'ai essuyés en abordant les troubles du comportement alimentaire et leur glorification. Donc, ça dit déjà quelque chose du sujet. On parlera quand même des Pro-Anna dans la prochaine demi-heure dans les rues de Paris.
Aux alentours de 16h30, Paris, audacieux que celui de rire avec l'anorexie. À la place, on rira plutôt des méthodes les plus saugrenues jamais inventées pour maigrir. Du régime du camp, qui préconise de ne manger que des protéines, au régime marie Marie-Anoche qui ne préconise de ne manger que du vin blanc. Juste avant 17h, nous serons rejoints par GC et on est content. Mais d'abord, Jean-Victor Blanc, on va parler de ce mouvement Pro-Ana en détail. Déjà, est-ce qu'il y a un lien réel entre la pop culture et les troubles du comportement alimentaire?
Oui, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un lien en général avec tous les troubles psychiques et la pop culture, puisqu'ils sont très présents dans la pop culture, dans les films, dans les séries et sur les réseaux sociaux. Ce qui est particulier avec les troubles du comportement alimentaire, c'est que les représentations vont aussi jouer sur finalement les symptômes de la maladie, puisqu'on sait qu'il peut y avoir un effet d'incitation. Mmh. C'est le cas également avec le cas du suicide, mais c'est les seules pathologies où il y a un lien qui va dans les deux sens, en fait.
Il a été très choqué d'apprendre à l'instant que ce n'était pas William lui-même qui, non content de nous parler pendant deux heures, préparait et dressait chaque plat au bistrot Blériot, mais ses employés, Ishan, Rizwan, Tariz, Chian et Bounan, qu'on salue. La prochaine fois, il se promet d'aller leur dire bonjour en cuisine. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et même bonjour du côté du bistrot Blériot.
Hey,
on les étions ce midi.
On fait du beau travail, on s'est régalé, comme d'habitude. Alors même si notre phénomène du jour relève pour vous de la science-fiction, Cyril, vous allez nous raconter le mouvement Pro-Ana, d'où ça sort.
Eh bien, c'est à une notion récente qu'on s'attaque aujourd'hui et je vais y venir. Mais figurez-vous que dès la fin des années 90, on a vu déjà une première vague de sites internet pro-ana et plus problématique où l'on encourageait déjà cette anorexie. La seconde vague, eh bien, on la connaît, elle est liée d'abord à l'avènement des blogs, puis à la montée en puissance et la prise de pouvoir des réseaux sociaux. Un chiffre stupéfiant vu en préparant ce petit billet, entre 2006 et 2007, le nombre de sites pro-ana a explosé de 470%. Mais au début des années 2000, ces sites étaient surtout ceux de personnes atteintes d'anorexie mentale qui voulaient partager leur expérience et qui cherchaient du soutien. Et puis ça a basculé vers une glorification de l'anorexie. Soudainement, c'était perçu comme un mode de vie, voire une aspiration, et plus comme un trouble médical très grave.
Et c'est donc comme ça qu'est apparu le terme pro-ana.
Oui, par un étrange effet. C'est comme si ce mouvement avait été personnifié et portait un prénom, celui de Anna, A-N-A. Et cette Anna leur sert d'amie stricte mais encourageante pour réussir le chemin vers l'anorexie. Sur ses blogs et puis ensuite sur ses comptes Instagram, TikTok et Tutti Quanti, on se partage des, attention, nouveaux mots, Sinspiration, des inspirations minceurs. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des photos, des petites phrases plus ou moins philosophiques pour encourager à la perte de poids. On y partage aussi des petits tips pour éviter de manger ou pour cacher son amaigrissement. Ne surtout montrer aucun signe de la maladie, car oui, c'est une maladie et on va en parler durant une heure.
Merci Cyril. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer, j'avais pas prévu, par cette question, parce que vous avez cité le terme d'anorexie mentale. Est-ce qu'il y a déjà une différence entre l'anorexie et l'anorexie mentale? C'est une seule et même chose?
Oui, en fait, quand on parle d'anorexie, en général, on parle de l'anorexie mentale. L'anorexie, ça veut dire la perte d'appétit. On peut être anorexique quand on a la grippe ou quand on a n'importe quelle maladie. Ça veut juste dire perdre l'appétit. Okay. L'anorexie mentale, ça va vraiment être le trouble psychique dans lequel il va y avoir une restriction alimentaire, etc., tous les autres symptômes.
On parle souvent, mais souvent en parallèle, anorexie et boulimie. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce que ce sont les mêmes troubles?
Oui, alors il y a une différence entre les deux. Ils font partie de la famille, on va dire, des troubles du comportement alimentaire. Dans la boulimie, qu'on appelle aussi la boulimie nerveuse, il va y avoir des crises d'hyperphagie avec des vomissements. Donc c'est ça la grande différence, là où dans l'anorexie, c'est essentiellement restrictif, c'est-à-dire s'empêcher de manger.
Mais dans les deux cas, l'idée, c'est quelque part de, et c'est pathologique si je comprends bien, mais de prendre le contrôle sur son corps, de ce qu'on peut maîtriser, c'est ce qu'on ingère.
Exactement, il y a l'idée du contrôle, et puis il y a surtout cette, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, donc encore un nouveau mot, où en fait les personnes se voient différemment qu'elles sont réellement. Et en fait c'est ça le point commun avec aussi une estime de soi qui va être congruente au poids. En fait dans les deux pathologies, par exemple quelqu'un qui va perdre 500 grammes, ça va dicter clairement la météo de sa journée, sa météo émotionnelle, son estime d'elle, etc.
Mais vous en tant que psychiatre, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça de sortir des gens de l'anorexie. Quand vous voyez ce mouvement pro-ana sur les réseaux, les bras doivent vous en tomber, c'est-à-dire qu'ils sont dans une spirale, ils s'auto-alimentent, comment on intervient pour casser ça?
Alors, c'est assez complexe le rapport qu'on peut avoir avec ces mouvements. Comme ça a été rappelé, c'est pas tout à fait nouveau puisque, effectivement, ça vient à la base des blogs, etc. Et c'est un peu là qu'on a entre guillemets découvert ces mouvements parce que c'était la première fois sur Internet que finalement des personnes concernées pouvaient se réunir, parler de leurs symptômes, ce qui est plutôt quelque chose de positif. Il s'agit pas non plus de diaboliser complètement évidemment le fait de parler de santé mentale sur les réseaux sociaux. Néanmoins, ce qui est spécifique dans les troubles du comportement alimentaire, c'est qu'il y a souvent beaucoup de déni et parfois, effectivement, du coup, une sorte d'encouragement un peu partagé entre pairs, où là où, par exemple, dans d'autres mouvements comme autour des addictions, les alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes, il y a cette entraide de bah, on est dans le même bateau, mais on se soutient pour s'en sortir. Voilà. Là, c'est un peu un espèce de AA inversé où ça serait de ah bah allons tous ensemble boire des coups et c'est un petit peu contre-productif.
France Inter, Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Un mouvement qui inquiète par son ampleur sur les réseaux. Zoom cet après-midi sur le mouvement Pro-Ana qui valorise donc l'anorexie. Le psychiatre spécialiste des addictions Jean-Victor Blanc est avec nous pour essayer de comprendre. On a toujours en tête l'image d'une jeune fille très maigre quand on parle d'anorexie. Est-ce que les garçons sont aussi touchés par cette maladie?
Oui, et ça c'est assez nouveau. On sait que globalement sur les troubles du comportement alimentaire, environ une personne concernée sur 10 est un garçon. Mmh. On sait en revanche que ça augmente beaucoup plus chez les garçons que chez les filles avec des nouvelles formes de troubles du comportement alimentaire, notamment ce qu'on appelle la bigorexie, qui concerne aussi les filles.
C'est le sport, ça.
C'est le sport, exactement. C'est
intense.
En fait, à la place d'être toujours plus mince, c'est même au-delà du sport, parce que c'est pas pratiquer un sport qui rend pas musclé, c'est vraiment vouloir être le plus musclé possible. Que possible. Exactement. Donc c'est un peu comme vouloir être le plus mince, sauf que c'est vraiment centré là-dessus.
Donc là, avec les compléments protéinés et tout ça. Là.
Compléments, testostérone, enfin les hormones, etc. Et puis des conduites alimentaires, mais aussi passer des heures à la salle et se sentir très mal si on ne peut pas, par exemple, aller pousser de la fonte.
Si jamais vous voulez en savoir plus sur la bigorexie, je vous renvoie à l'excellent numéro de Zoom Zoom Zen sur la bigorexie.
C'est vrai, on l'a fait,
le temps passe.
On en parlait tout à l'heure, mais le mouvement est quand même né dans les années 2000, et c'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens, des filles portaient un certain bracelet dans l'enceinte de l'établissement. Qu'est-ce qu'il voulait dire ce bracelet?
Il y avait en fait effectivement une sorte de communauté d'appartenance avec un bracelet en rouge, qui était en laine rouge. Alors c'était en même temps au moment où il y avait la cabale. Enfin, il y avait probablement plein de choses autour de ce bracelet rouge. Non, mais c'est vrai, c'était vraiment les années 2000 où on voit que c'était un petit peu la préhistoire quand on parlait de santé mentale. Et c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'appartenance autour de appartenir finalement à la communauté des personnes concernées par l'anorexie.
On sait combien de personnes sont touchées en France? On a des chiffres sur l'anorexie?
On a des chiffres, anorexie et boulimie, c'est environ chacune 1% de la population. À chaque fois, je fais le lien avec les deux parce qu'en fait, les deux sont quasiment aussi fréquentes et on peut passer d'une forme à l'autre. Donc, c'est environ en tout 2% de la population. On sait que ça a augmenté. Certaines études montreraient que ça aurait quasiment doublé, en tout cas chez les étudiants et chez les étudiantes, depuis le Covid. Donc, c'est pas le trouble psychique le plus fréquent, mais c'est pas non plus rare.
Vous dites que les réseaux sociaux ne créent pas cette pratique, même s'ils peuvent la faciliter et la rendre plus visible. Est-ce que vous diriez qu'Internet est un accélérateur de l'anorexie?
Ça peut être un des facteurs qui va contribuer à, et pas tant Internet que les représentations. Avant, on disait beaucoup les magazines de mode, etc., parce que c'était ça, les représentations qu'on avait. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est spécifique avec les réseaux sociaux, qui peut être bénéfique, mais qui peut aussi l'être moins, c'est qu'il y a un attachement encore plus fort parce que c'est vraiment un vécu. Bah, je suis comme vous, j'ai le même âge, moi, j'ai mangé une pomme, etc. Donc, on voit que c'est beaucoup plus fort que quand c'était une star lointaine à Hollywood qui disait, voilà, moi, je suis très... Enfin, elle disait même pas, je suis très mince, mais voilà, on avait une photo d'elle très mince et ça suffisait, quoi.
Vous pensez que sans réseaux sociaux, il y aurait moins de troubles du comportement alimentaire?
Alors ça, honnêtement, c'est difficile de concevoir et d'avoir des chiffres dessus, mais il faut rappeler que l'anorexie, comme tous les troubles, c'est dit plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a souvent une origine héréditaire. On peut être dans une famille dans laquelle il y a plus ou moins des troubles du comportement alimentaire, aussi parce que il y a des raisons qui sont probablement héréditaires génétiques, mais aussi parce qu'en fait, le rapport à l'alimentation, il est aussi souvent transmis par les parents. Il y a ensuite tout ce qui va être facteur de risque, de vie, avoir vécu un harcèlement, par exemple, et on sait aussi qu'il va y avoir certains milieux qui favorisent ça, notamment le sport de haut niveau, la danse, qui, et là c'est assez particulier, mais vont aussi finalement quelque part prôner finalement un contrôle du corps, donner des injonctions sur la minceur, etc. Et donc qui vont rentrer en écho avec l'anorexie.
Moi, je suis un peu perdu parce qu'on a fait aussi une émission sur le body positive, qui était un mouvement qui faisait en sorte d'accepter son corps. Ce mouvement, il a perdu la bataille.
C'est vrai que si on observe un peu la pop culture et la mode, qui donne quand même un peu le là, on a l'impression que la grande vague body positive, diversité, malheureusement, elle est en train d'un peu de refluer. Il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer. Alors, au-delà du climat politique, honnêtement, là, c'est un constat d'observation, parce qu'il n'y a pas d'études encore sur le sujet, mais probablement que l'arrivée des médicaments de type Ozempic, donc qui sont les médicaments qui font maigrir, en tout cas, on le voit au niveau des stars notamment aux États-Unis où il est très disponible et facilement donné, c'est incalculable le nombre de personnes qui avant prônaient un message body positive et qui aujourd'hui sont redevenues rachitiques avec la taille de leurs 20 ans. Quoi.
En mai dernier, il interpellait les gens sur la notion de body positive, effectivement sûr que le monde était en train de changer sous l'impulsion des sujets wokistes de Zoom Zoom Zen. 8 mois plus tard, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas Zoom Zoom Zen qui a gagné, mais Donald Trump. Quentin, vers quelle heure vous êtes allé discuter dans la rue de notre sujet du jour ?
À l'heure du déj, Mathieu, puisqu'on parle de nourriture, allons-y à l'heure de pointe. Ces jeunes gens sortent d'une nouvelle chaîne de burgers qui vient de prendre la moitié d'un bâtiment Place de la République à Paris.
Bonjour !
Quels sont vos prénoms ?
Marceau.
Tina. Noah. Mathilda.
Ils ont 18, 19 ans à peine, ils découvrent...
Pro-Anna.
Waouh !
Pro-Anna, ça veut dire... pro-anorexie, du coup, de ce que je comprends. Il y a plein de trends, dans tous les cas, sur TikTok, qui tournent vachement autour de la nourriture. Les girls dinner, tout ça, où on mange 3 olives et 2 cornichons dans la soirée. Il y a toujours eu un truc sur les réseaux, globalement, notamment des communautés adolescentes, de un peu glamourisation de, du fait de s'affamer, de manger le moins possible et tout. Donc oui, c'est horrible, surtout que ça en influence plus... d'un et d'une.
Ah, je marche quelques centaines de mètres et je tombe sur elle. Elle est son copine, ça se voit, elle s'habille un peu pareil. Un café à emporter dans chaque main.
Charlotte et Romy.
Vous avez quel âge ?
18 ans.
17.
On est toutes les deux en business school.
Charlotte me dit que ce pro-Anna est un sujet d'actualité, mais que la société a quand même bien évolué depuis Kate Moss et les années 90.
Et là, je trouve que c'est plus toujours dans les sports extrêmes, comme la danse classique... Même par exemple, je vois le patinage artistique, la GRS, où elles sont vraiment toutes fines et elles ont des régimes très spécifiques. Je trouve que c'est montré comme soi-disant pour pouvoir avoir plus de capacité, mais c'est juste pour garder une silhouette très, quand même très fine et c'est vraiment de l'anorexie, quoi.
Alors, certaines disciplines sportives, vous en parliez, sont-elles des vitrines internationales vantant l'anorexie ? La discipline alimentaire sportive a-t-elle des dérives ? En parlant de sport, ces deux amis-là passent devant moi, leggings, doudounes et gourdes graduées.
Aujourd'hui, on a un cours de danse, de samba.
Notre thème du jour, ça leur inspire quoi ?
Moi, je vois souvent sur TikTok des comptes de filles qui ont des TCA, du genre boulimie ou anorexie. Et en fait, elles se filment en pleine crise. En train de manger des quantités de nourriture. Et du coup, j'ai vu que ça pouvait un peu trigger, entre guillemets, les gens qui ont ce genre de TCA, parce qu'ils voient d'autres gens faire des crises, et du coup, c'est un peu malsain.
Alors, après tout, puisqu'on affiche tout, est-ce que si on affiche son mal-être et ses dérives qui l'entraînent, ça peut faire office de prévention ? Elle est en doudoune rose, d'une marque hyper tendance, casque vissé sur les oreilles, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom ?
Charlotte.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis photographe.
Ok, de qui, de quoi ?
D'ailleurs, je viens de faire des photos avec Marine Leonardi, dans Zoom Zoom Zen.
C'est pas vrai.
Si.
Sérieux ?
Ouais.
Elles sont bien, les photos ?
Ouais.
Elle est bien habillée ?
Ouais.
Pour une fois.
Non, mais c'est pro Anna.
Quoi ?
Non, mais c'est drôle.
Pourquoi c'est drôle ?
Ça me fait penser au prank de la sodomie, là.
Je veux parler de pro Anna dans la rue, et dans le texte, on retient pro anal. Bon, c'est tout moi. Alors, Charlotte.
Ça, c'est bizarre parce que quand je lis ça, j'ai l'impression que ça date plus genre de 2010, des trucs comme ça.
Il y a eu des blogs, il y a eu des sites.
Ouais, c'était terrifiant en vrai. Non mais en plus, manger c'est tellement génial. Enfin, c'est quand même incroyable la chance qu'on a d'avoir le goût et de pouvoir manger. Mais bon, quoi.
Je m'attendais pas à cette ode à la dégustation.
Ah ouais, non, moi je trouve que c'est incroyable de pouvoir manger. Donc,
Elle ajoute que dans son travail, elle porte un regard attentif au partage des corps, des silhouettes qui veulent coller au code d'Instagram, par exemple.
Après aussi, dans mon travail, c'est vrai que j'essaye aussi de justement donner aux jeunes femmes d'autres perspectives. Et surtout, je trouve que le fardeau de ne pas aimer son corps, c'est tellement une perte de temps. Surtout qu'en plus, en général, on fait une photo de toi, puis sur le moment, tu t'aimes pas, puis tu te regardes 5 ans après, puis tu fais « Ah, mais j'étais bien ». Puis en fait, si c'est pour s'aimer à chaque fois, a posteriori, puis jamais s'aimer dans le présent, c'est quand même très con. Même si je sais qu'après, c'est souvent aussi lié à des troubles plus profonds, des traumas, etc. Mais en tout cas, pour ce qui est de juste pas aimer son corps, genre, relativisons peut-être.
Je vous présente ma dernière rencontre, c'est Caroline, elle a la quarantaine.
Alors, en tant que mère, il faut en parler avec ses enfants. Moi, en l'occurrence, j'ai des filles, donc l'aînée rentre dans cette période d'adolescence. J'aurais montré des images, bien sûr.
Des personnes atteintes d'anorexie ?
Tout à fait. Je les ai prévenus, si elle constatait qu'il y avait des comportements dans ses amis, dans son entourage, des problèmes d'alimentation, quand souvent ces filles-là, elles jouent avec la nourriture, elles déplacent les aliments dans leurs assiettes. Donc ça peut être un signal. Donc oui, elles sont tout à fait averties.
En tant que maman, on est inquiète là-dessus ?
Vigilante.
Ils gravitent autour de nous, tous ces troubles du comportement alimentaire. S'alimenter, c'est la base de notre existence quand même, mais la nourriture peut aussi s'avérer être un ennemi. Comment se réconcilier, se réparer, se préserver ? En en parlant, certainement, à l'image de cette maman.
Jean-Victor Blanc, je rappelle que vous êtes psychiatre. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter cette maman qui nous parle des personnes qui trient les aliments dans leurs assiettes? C'est des signes, en tant que parent, on doit être vigilant à ça?
Oui, c'est vrai que ça commence souvent par ce qu'on appelle l'éviction alimentaire, donc le fait de supprimer certains aliments. Parce que dans les restrictions que vont s'imposer les anorexiques, il y a effectivement le fait de manger moins de calories, mais il y a aussi certains aliments qui vont être complètement interdits, complètement diabolisés, notamment les aliments gras. Clairement, l'andouillette en fait premièrement partie.
L'andouillette, clairement.
Voilà. Mais aussi des choses comme les pâtes à tartines, etc. Donc des aliments qui vont être complètement interdits, au-delà même de leur apport calorique.
Beaucoup de personnes dans le micro-trottoir de Quentin parlent quand même de TikTok. J'ai l'impression que ça revient. En novembre dernier, 7 familles françaises ont assigné TikTok en justice car elles accusent l'application de mettre en valeur des contenus promouvant les troubles alimentaires, ainsi que des idées suicidaires et l'automutilation. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, TikTok peut être tenu responsable pour ces troubles ?
C'est compliqué la question de la régulation, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs études qui ont montré que en fait, en moyenne, en créant un compte, on peut être dirigé envers des contenus, par exemple sur les TCA ou les idées suicidaires, au bout de 8 minutes, en fonction de ce qu'on a regardé avant. Donc c'est vrai que c'est vrai pour tout. Si vous commencez à regarder du jardinage, on va vous emmener sur un espèce de tunnel de jardinage. C'est vrai que pour des personnes qui sont vulnérables, les surexposer à du coup des silhouettes extrêmement minces, ça peut effectivement aggraver des troubles.
C'est vrai pour tout, vous avez raison, parce que c'est l'algorithme, mais justement, est-ce qu'on pourrait pas, alors je sais que c'est pas vraiment la mode en ce moment de réguler les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il faudrait pas, là, on s'amène pas vers du jardinage, ça mène vers quelque chose qui est mortifère. Donc peut-être qu'il faudrait peut-être légiférer un moment pour faire en sorte de casser cet algorithme à cet endroit-là sur ce qui amène vers des contenus pro-ANA, par exemple.
Bien sûr, et notamment les rediriger vers des contenus qui vont être plus positifs sur la santé mentale, puisque l'anorexie, comme la plupart des troubles, se soigne grâce à une prise en charge. On peut aussi trouver des ressources sur les réseaux sociaux de justement d'autres types de silhouettes par exemple, mais aussi des parcours de soins de personnes qui sont rétablies. Donc effectivement, il y a des contenus qui sont intéressants. Malheureusement, on sait que c'est pas ceux qui sont poussés.
Juste, il faut quand même préciser que pro-ANA, il y a quand même certains mots qui sont bannis, qu'on ne peut pas chercher sur les réseaux sociaux, qui nous renvoient quand même vers des sites d'appels en ligne sur Instagram et sur TikTok aussi.
Mais justement, parce qu'on entendait ces personnes qui partagent leur crise de boulimie par exemple, qu'est-ce que ça dit ça ? Est-ce que c'est de l'anti-ANA, de l'anti-MIA ?
Oui, alors c'est pour le coup, il y a pro-ANA et pro-MIA pour la boulimie. Donc effectivement, ça va être avec un phénomène de copie, un petit peu comme pour l'addiction, parce que la boulimie nerveuse, on la rapproche encore plus de l'addiction que les autres, que l'anorexie mentale, où ça va finalement déclencher l'envie d'une crise. Sachant qu'en général, ce qui peut déclencher l'envie d'une crise, ça va être des émotions négatives, de la tristesse, une déception. Et évidemment, du coup, les réseaux sociaux peuvent aussi contribuer.
Mais ce que vous nous dites, c'est que là, il y a des gens qui ne seraient jamais passés au stade boulimique et qui, en voyant certaines vidéos, vont se dire « Attends, en fait, c'est ça qu'il faut faire. »
Non, honnêtement, ce serait plutôt un facteur, on va dire, aggravant. Mais ce n'est pas avec une image qu'on devient et qu'on déclenche un trouble psychique, quel qu'il soit.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Puisqu'on dénonce le mouvement pro-ANA cet après-midi dans Zoom Zoom Zen, autant aller au bout de la démarche en dénonçant également les méthodes parfois dangereuses, toujours débiles, que l'homme a inventées pour nous faire perdre du poids. Jouons au Zoom Zoom Test. Et on peut rapidement enlever le générique de Motus cet après-midi, puisqu'on part loin, très loin du plateau de l'ami Thierry Beccaro. Nous sommes aux États-Unis, à Langley, en Virginie, siège de la CIA. Où, ça y est, en ce mois de février 2006, la 17e tentative a été la bonne après avoir involontairement blessé 4 instructeurs de tir. Cyril Lacarrière est enfin déclaré apte au service. Hélas, l'ultime étape du recrutement des agents secrets lui sera fatale, puisqu'en effet, au moment de monter sur la balance, la balance cède sous son poids. Du jamais vu dans l'histoire de la CIA et dans l'histoire tout court. Cyril repart avec l'obligation de se délester d'une trentaine de kilos. Sous le choc de cette décision ouvertement grossophobe, Cyril trouve d'abord refuge dans un bar pour démarrer un régime très décrié pour cause. Manon, Quentin, comment s'appelle le régime qui consiste à remplacer la nourriture par l'alcool ? Ça n'a pas de nom, ça s'appelle juste la vie de Manon Mariani. Ça s'appelle l'alcorexia. Ou ça s'appelle la druncothérapie.
A et B.
Ça compte. C.
C'est une bonne réponse de Manon Mariani.
Ah, les deux
qui se tire une balle dans le pied. Mais oui, j'accepte la réponse. Ah aussi, c'était la baie, l'alcorexia. On commence très fort avec un des régimes les plus cons qui soient. Et je n'insulte pas Manon en disant cela, car elle ne l'a pratiqué que de manière intermittente dans sa vie. L'alcorexia consiste donc à ne consommer que des boissons alcoolisées. Un régime qui réussit le prodige de n'avoir aucun bénéfice, puisque l'alcool est très calorique et ne contient aucun nutriment. Très vite, Cyril réalise que ce n'est pas comme ça qu'il va réussir à discipliner son petit bidou. Alors il dit non à l'alcool et oui au CBD. En effet, il a lu quelque part que le CBD permettait de perdre du poids rapidement. Alors il a mis de côté sa détestation pour Bob Marley, les pacifistes jamaïcains et plus globalement tous les gens de gauche amateurs de reggae, pour se lancer dans le régime CBD. À votre avis, Manon Quentin, pourquoi était-ce là encore une très mauvaise idée? Parce que le principe actif du cannabis donne faim? Parce que le régime CBD n'a rien à voir avec le CBD tel que Quentin l'a découvert un jour lors d'un micro-trottoir?
Avant de partir, tu voudrais goûter un petit joint de CBD là? J'en ai déjà roulé si tu veux.
Allez.
Il était revenu dans un état, je vous décris pas,
déplorable.
Ou c'est parce que le régime CBD, c'est un régime à base de coton-tige trempé dans du smoothie.
Les trois.
Oh, mais non, pas les trois.
Les trois.
A et...
C'était
A.
Tellement long que vous aviez oublié la première proposition.
Oui. A et B.
Ben non, mais parce que le A, c'est vrai, c'est
A,
sûr.
A, c'est vrai.
Alors c'est non, c'est pas,
pas
A et B.
Tige. A et C.
Bon, c'est un échec total. C'était les réponses. B et C, ça n'a rien avec le CBD. Écoutez bien, le régime CBD n'a rien à voir avec le cannabidiol, puisqu'il nous vient de ce milieu toujours prolixe en matière d'idées minceurs, la mode. Le CBD, ou Cotton Ball Diet, pratique qui consiste à ingérer une boule de coton, préalablement imbibée de jus de fruits pour avoir un apport en vitamines, sans avoir à manger de nourriture solide. Au-delà de la dimension stratosphériquement conne du truc, on notera que c'est la méthode parfaite pour choper une occlusion intestinale. Affolé à l'idée que son appareil digestif puisse être endommagé, Cyril renonce à la méthode CBD et franchit la frontière mexicaine pour tester une méthode interdite aux États-Unis. En quoi consiste cette méthode illégale mais qui séduit pourtant des milliers de personnes sur les réseaux? La méthode qui consiste à se faire implanter un petit aspirateur à lipides dans le ventre? La méthode qui consiste à se faire implanter un ver solitaire dans le ventre? Ou la méthode qui consiste à se faire grillager la bouche afin de ne plus pouvoir manger solide?
B.
Ouais.
C'est une bonne réponse de Manon. Vous m'avez l'air étrangement informé sur le sujet. Direction.
Non, j'ai bien un fait divers, je crois.
Direction le dark web pour Cyril, qui, à défaut d'adopter un chien, a décidé d'adopter un ténia. Oh. Le ver solitaire qui s'est connu vous débarrasse de votre bol alimentaire. Mais non, là encore, attention, la fausse bonne idée. S'implanter un ver de 9 mètres dans le bidou n'est jamais une solution pérenne. Et c'est même dangereux, d'où son interdiction dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Retour à la case départ pour Cyril, qui n'a toujours pas perdu un gramme depuis le début de ce quiz. Mais tout à coup, il se souvient. Mais attends, si on prend du poids quand on arrête la clope, alors on doit pouvoir en perdre en commençant. Cyril, qui n'avait jamais fumé, aurait été la cible parfaite pour le tristement célèbre Edouard Bernays, neveu de Freud et publicitaire fécond des années 30 qui a pu effectivement véhiculer ce genre d'idées. D'après vous, quel célèbre slogan minceur doit-on à cet Edouard Bernays? Prenez une Lucky Strike au lieu d'un bonbon? Une Marlboro plutôt qu'un McDo? Ou restez belle en fumant Camel?
C'est...
Ah c'est, ouais, je pense que c'est C. J'irais B, mais je pense que c'est C.
Bon, je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
Les trois?
Ou encore mais une, c'est...
Manon. A, B?
Bon, j'ai tout fait pour attribuer la victoire à Manon, pour respecter le scénario d'un quiz bien tenu. Mais non, c'était n'importe quoi, c'était la réponse A. Prenez une Lucky Strike au lieu d'un bonbon, mesdames. Si vous voulez garder
c'est
la ville, oubliez les bonbons préférés, la
ça
clope.
Ça rime pas.
C'est peut-être la traduction française.
Les chutes de Quentin sont beaucoup mieux. Mais complètement la rue.
C'est pas moi qui l'ai écrite.
Oui, bah.
Il y aurait une rime sinon, évidemment. Enfin, encore une méthode minceur à proscrire, évidemment, la clope. Victoire de Manon Mariani, malgré tout. Malgré, désolé Quentin. La triste tendance des pro-ANA, ce mouvement qui promeut l'anorexie largement repris sur les réseaux sociaux, c'est le sujet de Zoom Zoom Zen cet après-midi. On est toujours en compagnie du psychiatre spécialiste des addictions Jean-Victor Blanc. Jean-Victor, il faut mettre des exemples très concrets sur cette tendance pro-ANA. C'est quoi le A4 Challenge?
Le A4 Challenge, alors c'est un challenge qui est très graphique et en fait qui correspond au fait de vouloir que la taille de ses hanches soit de la largeur d'une feuille d'A4. Enfin, une feuille A4, une feuille de papier. Alors, sachant que sur la plupart de ces challenges physiques, déjà ça correspond à des variations anatomiques. Certaines personnes ne pourront jamais y arriver, voilà. Et que pour certaines personnes, elles y arrivent sans effort et sans se forcer à une restriction alimentaire massive. Donc c'est vrai que c'est à l'heure de l'image, c'est très graphique et donc malheureusement ça peut exposer plein de gens.
Et surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont quand même victimes de body shaming sur les réseaux sociaux. Donc je suppose que ça n'aide pas.
Exactement. Alors comme on le disait tout à l'heure. l'heure, on a l'impression qu'il y a quand même eu un moment là depuis les années 2010-2020 autour de d'autres standards de beauté portés notamment par des célébrités, des créatrices de contenu, etc. Bon, est-ce que ça va perdurer? C'est un peu ça la question du moment.
Oui, les mannequins en plus size, par exemple, sur les défilés de mode, ça on en voit déjà moins.
Effectivement, on en voit moins. Il y a eu l'ère des Kardashians hein, qui quand même ont modifié aussi clairement les standards de beauté corporelle en imposant d'autres injonctions avec du coup ces corps comment dire
calipiges presque.
Calipiges, exactement. Néanmoins, là aussi quand même depuis la trend aux Olympiques, malheureusement, on a beaucoup moins ces modèles-là qui ressortent. Donc
on va faire une émission sur les Kardashians dans deux jours.
Mais
me dit Cyril dans l'oreillette.
Oh là là, ce Cyril, Cyril, c'est vraiment le. Il a raté sa vocation publicitaire.
Ouais,
il est exceptionnel. Dans votre livre Pop MC, Jean-Victor Blanc, vous parlez aussi du thigh gap, une tendance qui prône un espace vide entre les cuisses, debout, pieds et genoux collés. Ça vient d'où ce truc? Qui a inventé cette tendance?
Là aussi, en fait, on voit, mais alors ça, c'est assez global sur les questions de représentation du corps, que certains, il va y avoir une focalisation sur certains détails de l'anatomie. Alors, dans le cadre, effectivement, là, de cet espace qui, encore une fois, peut être présent de manière anatomique ou pas, et là, le plus souvent, c'est pas. Mais on va voir que, notamment, avec, probablement qu'il y a un effet, alors, des réseaux sociaux, mais aussi avec le zoom, etc., où les gens se regardent de plus en plus, on le voit, notamment, avec le retour et le recours à la chirurgie esthétique de plus en plus jeune pour se modifier et en créant quelque part des complexes qui sont parfois très étonnants.
Pardon, mais ça, en tant que psychiatre, comment vous gérez ça? Enfin, déjà, l'être humain est déjà suffisamment complexe. Là, on est face à une génération qui commence à user du bistouri très tôt, enfin, avec des risques ensuite de ne plus se plaire. J'imagine les modes changent aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on dit et comment on traite ça?
Effectivement, c'est compliqué parce qu'en fait, dans ces standards de beauté souvent irréalisables, va se loger de l'anxiété, une diminution de l'estime de soi. Et finalement, c'est compliqué parce que la psychiatrie se définit aussi en rapport à des normes sociales. Avoir recours à la chirurgie esthétique à l'âge de 18 ans, c'est pas un trouble psychique. Bon, néanmoins, si tout le monde commence à faire de la chirurgie à 18 ans, ça va être compliqué pour les personnes à 25 ans qui l'ont pas fait, qui vont être mis de côté, parce que ça, pour le coup, on sait que, par exemple, ça génère un stress social.
Manon. On parlait beaucoup de Ozempic, donc pour rappel, c'est un médicament à la base contre le diabète, mais qui fait aussi perdre du poids. Beaucoup de célébrités le prennent. Pour vous, c'est le prochain fléau, c'est ça? Ou c'est le fléau actuel? C'est l'Ozempic?
C'est compliqué parce que l'Ozempic, c'est quand même un médicament qui a des résultats, et d'où son succès, hein, très important sur un autre fléau qui est
le diabète.
Le surpoids.
Le surpoids.
Initialement, en fait, il a été testé et il fonctionne très bien chez les personnes qui sont en état d'obésité. Donc, pour le coup, et beaucoup de personnes meurent aussi du surpoids, de l'obésité. Hein, donc, il ne s'agit pas non plus de transformer ce médicament en autre chose. Néanmoins, c'est vrai que c'est surtout la question, je pense, moi, de l'injonction. En fait, que ça va être compliqué parce que si du coup quelqu'un qui refuse entre guillemets de l'utiliser, alors que ça vient déplacer quand même quelque chose d'assez compliqué. Quoi.
Oui, mais l'État a pris en main justement le fléau qu'est l'obésité avec des publicités, mieux manger, bouger, faire du sport. Est-ce qu'il faudrait créer des publicités, des slogans aussi de prévention contre l'anorexie
qui rimerait?
C'est compliqué parce que vu que ça concerne quand même moins de personnes que la malnutrition, et qu'en plus on sait que justement ces campagnes, notamment la campagne sur la classification alimentaire, elles sont quand même mises un peu à mal par les lobbies alimentaires qui eux ont plutôt intérêt à ce que les gens surconsomment. Par un étonnant détour, hein, on sait qu'aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, Walmart, etc., ont une baisse de leur chiffre d'affaires lié à l'arrivée de l'Ozempic, tellement en fait les gens du coup mangent concrètement moins, remplissent moins leur caddie, avec du coup la création de certaines lignes alimentaires spéciales personnes sous Ozempic du coup qui sont vendues plus cher. Enfin, c'est assez vertigineux les effets que ce médicament a sur toute la société pour le coup et le psychisme.
Mais vous pensez que ça peut arriver chez nous, ça?
Oui, techniquement, on n'est pas indemne, même si c'est vrai que le système de soins, on l'a vu avec la crise des opioïdes, donc on rappelle, voilà, aux États-Unis où il y a eu vraiment une inflation de prescriptions de médicaments antidouleurs très, très addictifs, avec du coup une épidémie de décès, hein, c'est 100 000 décès par an aux États-Unis. On voit que là-bas, la prescription, elle est beaucoup plus forte, il y a beaucoup plus d'incitation, et vu que le système de soins est beaucoup moins protecteur, en fait, quelqu'un qui a très mal au genou, en fait, la solution, s'il veut pas que ça lui coûte $150 000, ça va être de prendre un antidouleur. Heureusement, et pour le moment, en France, on est encore un petit peu prémunis de ça.
Il y a forcément parmi les gens qui nous écoutent des jeunes hommes, des jeunes femmes qui souffrent d'anorexie ou de boulimie. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Est-ce qu'on peut sortir de l'anorexie seul ou est-ce qu'il faut absolument en parler à un psychiatre ?
Il faut en parler à partir du moment où, en fait, où c'est une maladie. C'est pas juste avoir un complexe ou c'est pas juste être mince de manière constitutive. À partir du moment où on a un trouble anorexique ou boulimique, il faut en parler à un professionnel de santé. En général, c'est vraiment même deux. Il faut un psychiatre ou un psychothérapeute et un médecin nutritionniste, parce qu'il y a vraiment les deux éléments qui sont importants. C'est une maladie dont on peut s'en sortir, dont on peut être rétabli, et il y a aussi beaucoup de, c'est l'effet plutôt positif, de célébrités aujourd'hui, comme Lady Gaga par exemple aux États-Unis, qui a dit qu'elle s'est rétablie de troubles du comportement alimentaire qu'elle avait pendant son adolescence. Donc il y a de l'espoir. On sait que le pronostic il est plutôt bon à partir du moment où il y a une prise en charge.
Côté parents, il faut aussi essayer de nouer le dialogue avec souvent son adolescent, ou est-ce que quelque part il faut assez vite réorienter vers un psy, vers un professionnel, parce qu'en tant que parent on n'est peut-être pas la parole qui permet de changer quelque chose sur l'anorexie.
Il faut les deux, parce qu'en fait il faut essayer d'en parler directement à l'adolescent et ensuite de l'encourager à se faire soigner. Souvent dans les troubles de comportement alimentaire, il y a besoin de ce qu'on appelle un accompagnement ou une thérapie familiale, parce que parfois il y a une origine familiale, mais surtout parce qu'en fait l'anorexie mentale, elle vient mettre à l'épreuve une famille, parce que quelqu'un qui, trois fois par jour, ne mange pas, ne partage pas ce temps-là, jette... Enfin, c'est évidemment... Ça
toute
rend...
l'attention est là-dessus à chaque repas. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure maintenant de découvrir l'autre personne à suivre sur notre sujet.
Je vous présente Marie Lopez. Elle a 29 ans, elle est française et la majorité des gens la connaissent sous le nom d'Enjoy Phoenix. Marie Lopez a été l'une des premières youtubeuses françaises à être très médiatisée dans les années 2010. Sa chaîne compte quasiment 4 millions d'abonnés. À la base, elle y parlait essentiellement de maquillage, de beauté, de lifestyle. Elle a commencé alors qu'elle était encore mineure, quand elle se faisait harceler au lycée. Pour elle, YouTube était un nouveau moyen de se faire des amis et de s'échanger de son quotidien. Et ce sont donc des millions d'amis qu'Enjoy Phoenix s'est fait. Elle est rapidement devenue l'une des youtubeuses les plus populaires de France. Mais comme très souvent avec les femmes médiatisées, elle a très rapidement été la victime de cyberharcèlement sur les réseaux, notamment à cause de son poids. C'est pour ça qu'en 2017, elle décide de faire une vidéo intitulée « Pourquoi j'ai pris du poids ?»
Quand on est en période d'anorexie, boulimie, dépression, fatigue... Autant vous dire que je suis passée par une période très sombre de ma vie.
Face caméra, durant 40 minutes, elle explique souffrir de TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire, depuis quelques années. Elle explique que les commentaires constants sur son physique la touchent, qu'elle se fait vomir et qu'elle est atteinte d'anorexie et de boulimie. À l'époque, c'était encore assez rare que des créatrices de contenu parlent de leur poids, notamment en France. Elle explique que sa participation à l'émission Danse avec les stars a été un véritable calvaire pour elle. En effet, on la voyait très amincie. Ainsi, après avoir perdu 15 kilos en quelques mois, poussée par une coach qui lui donnait des conseils mal avisés, elle avait à peine 20 ans quand elle y a participé. On peut imaginer la pression qui a pesé sur elle et la difficulté pour une jeune femme qui souffre de troubles du comportement alimentaire. Sa vidéo a donc fait l'effet d'une bombe. Des milliers de commentaires la remercient de parler de ce sujet si tabou. Des jeunes filles, mais aussi des parents qui ne savent pas forcément comment aborder la question avec leur enfant. Depuis, elle continue d'en parler assez régulièrement dans des interviews et dans des vidéo. L'année dernière, elle a avoué que ses TCA n'ont pas totalement disparu et que ça l'impacte encore psychologiquement aujourd'hui. Avoir des créatrices de contenu très populaires auprès des jeunes qui font la prévention sur le sujet, c'est donc aujourd'hui très très important, d'autant plus que on l'a dit, mais le body shaming fait encore rage sur les réseaux sociaux et qu'il impacte des millions de jeunes femmes.
Merci Manon. Jean-Victor, vous êtes un psychiatre assez jeune, il faut le dire, c'est de la radio pour les gens qui nous suivent pas en vidéo. Est-ce que c'est plus dur de traiter l'anorexie aujourd'hui? Et ça a toujours existé l'anorexie, mais là avec les réseaux sociaux, avec le body shaming, est-ce que quelque part c'est encore plus compliqué pour le professionnel?
Difficile d'y répondre. On sait qu'il y a plus de personnes concernées. Néanmoins, le système de soins s'est quand même amélioré. On comprend aussi mieux la maladie, notamment parce qu'on la rapproche de plus en plus des addictions, où en fait l'anorexie, pour le comprendre, ça correspond à une addiction à la minceur. Finalement, c'est pas tellement une répulsion de la nourriture, mais c'est en fait d'être toujours plus mince et de perdre le contrôle vis-à-vis de cette minceur. Donc globalement, on comprend quand même mieux la maladie et aussi, comme ça a été cité, on a de plus en plus d'exemples, de supports positifs pour parler de santé mentale au sens large. Donc, difficile de dire si c'est plus compliqué.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Tout Toute honte bue aurait pu être le titre de son avant-dernière story Instagram. Dans lequel on le voit bander très fort son biceps, quoi, l'utilisation malicieuse du grand angle de l'iPhone permettant de donner au dit biceps une illusion de densité. Tout ça pour nous annoncer que ça y est, il s'est fait vacciner contre la grippe. Alors Coral, si tout le monde attendait février pour se faire vacciner contre la grippe, on irait collectivement dans le mur. Donc la prochaine fois que vous faites un truc qui n'a pas de sens médicalement, n'en faites pas la publicité sur Instagram. Cette précision est en fait, je vous laisse nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur le stop motion. Non,
ah bah non, j'ai... ça c'est hier.
J'ai été piégé. J'ai copié-collé le lancement d'hier parce que j'avais sauté. Ah là là, j'ai été. Alors racontez-nous le stop motion, si vous voulez plutôt le mouvement pro-Anna.
Bah en tout cas, je suis content d'apprendre comment gros biceps photographié sans grand angle avec mon iPhone. Vous avez moustillé, Mathieu.
Il m'a pas moustillé.
Et en plus, visiblement, oui, ça vous a un petit peu perturbé en tout cas. Et en plus, ça peut rendre j'essaie jaloux. L'objectif est atteint. Aujourd'hui, on a parlé donc des pro-Anna et non pas du stop motion avec le psychiatre Jean-Victor Blanc, spécialiste des addictions et de la pop culture. Les pro-Anna, ce sont des influenceuses généralement qui prônent une extrême maigreur, une silhouette famélique, et peu importe si elles mettent en danger la santé des jeunes filles et des jeunes garçons qui les suivent. Ces modèles, qui n'en sont pas vraiment, vantent ce mode de vie de manière tristement efficace. L'anorexie devient un personnage, Anna. On lance des défis, comme par exemple avoir un ventre de la largeur d'une feuille A4, et on fait la pub de compléments alimentaires. L'anorexie est pourtant une maladie, comme nous l'a rappelé Jean-Victor Blanc. Et tout ceci lui fait dire qu'il y a un lien très fort entre les réseaux sociaux, les films, les séries et les troubles psychiques, en particulier ceux liés au comportement alimentaire. Car dans ces cas, la représentation joue directement sur les symptômes et provoque un effet d'entraînement. Le plus grave, c'est qu'on pensait cette bataille derrière nous. Des lois sont passées pour interdire la promotion de l'anorexie, notamment sur les podiums des défilés de mode. Le body positive sur l'acceptation de son corps tel qu'il est devait aussi avoir gagné la bataille des esprits. Et bien malheureusement, tout est à refaire, tant la puissance du mouvement pro-Anna s'étend sur les réseaux sociaux, boostée par les algorithmes.
Merci Pierre, et j'invite nos auditeurs à aller découvrir votre biceps sur votre profil Instagram, ils se font leur avis par eux-mêmes. On retrouve maintenant, et je tremble de le retrouver, Jessé, qui n'avait, je crois, pas bien compris le thème.
Bonjour à tous, ah oui Mathieu, par souci de transparence, je dois dire que quand j'ai ouvert le mail qui m'annonçait le thème, j'ai lu « pro-anal ». Au cas où on s'interrogeait encore sur mes obsessions, je me suis dit « Oh super, je vais enfin pouvoir puiser dans mes expériences personnelles pour faire une belle chronique documentée. Hein » D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait des groupes pro et anti-anal. Mais bon, s'ils ont besoin d'une présidente pour les pros, à dispo. Puis après, j'ai relu le mail et j'ai vu qu'il n'y avait pas de L, un peu comme la catégorie meilleure réalisation au César cette année. Oui, c'est une chronique féministe. Allez, Vous avez vu, ça va dénoncer. Bouge-toi les oreilles, Cyril Lacar. Oula.
Cyril Lacar.
Oui, mais c'est pensé au biceps. Ça va. Pro Anna, franchement, qu'est-ce que c'est encore ces histoires? C'est quoi? C'est une secte autour d'Anna Wintour, c'est ça? Avec que des gens bien habillés? Ah, bah, je peux vous dire que déjà que Mathieu et Cyril sont pas les gourous. Ah, je peux plus. Non, mais quel est ce pull? Quelqu'un peut lui dire qu'il a pas 14 ans, franchement? Non, mais franchement, pro Anna, j'ai lu le mot, j'étais là. Ou alors, pardon, c'est Anna Girardot, Anna Mouglalis qui veulent contrôler le monde. Je sais pas, il y a Anna Girardot qui en a marre, qu'on lui dise t'es nul, Anne. Hein, alors que bon, Quentin, on lui dit toute la journée. Bah, ça a pas l'air de l'atteindre, hein? Tu vas pas nous faire un groupe pro-Quentin? Ce serait qui la présidente en plus? Moi je bois ta maman.
La mienne.
Hey, tu vas me faire bûcher. Ou une petite personne venue de province. Allez, accroche-toi, ça peut être violent Paris en plus. Et après, j'ai lu la documentation. J'ai lu la documentation quand même. Bah oui, je fais mon travail. Autour du thème. Pro-Anna, 2 points. Personne prenant la maigreur extrême et l'anorexie. Allez, super, hein, génial. Bien fait d'accepter de venir mardi au lieu du jeudi, moi. Le nez creux, la GC. Hein, on m'y reprendra, tiens, à vouloir arranger Rosa Burstein. En fait, je pense que c'est très simple. Vous voulez me mettre des bâtons dans les roues. Hein. C'est ça, vous voulez me voir trébucher. Hein. Vous vous êtes dit, tiens, on va lui donner l'anorexie à l'autre pédoc. On va voir si elle fait toujours sa maline. Hein, en plus, qu'est-ce que j'y connais, moi, l'anorexie? Quand je vomis, c'est uniquement parce qu'il dépasse la glotte. Première vanne sur l'anorexie. En tout cas, si vous vouliez me voir faillir, eh bien, c'est très mal me connaître. Vous avez le vice, j'ai le tournevis. Et puisque je suis sur la case de Rosa, moi aussi, j'ai eu envie de challenger mon âme de poétesse. J'ai donc fait ce que je pouvais avec mes petits souvenirs de français pour adresser ce fléau, quand même, rappelons-le, qu'est l'anorexie, à travers un poème. C'est un poème en alexandrin parce qu'on n'est pas des clochards. Oh, Anna. Eh, c'est premier degré. Hein. Oh Anna, donc tu n'es pas un chant venu de Tahiti ou une pratique de dos qui me réjouit. Tu es une brise pour d'autres, un mouvement cruel pour la jeunesse et sans fondement. Regarde Anna, le pain qui te supplie, le beurre à l'anguille, la figue en agonie. Cyril s'empiffre et Mathieu lèche la vie. Mais toi tu fuis tous ces plaisirs bannis. Manon trinque son vin, insouciante et gourmande. Quentin la rejoint, ivre, la bouche en demande. Mais Anna évite ces festins bienheureux, car son ventre crie et elle ferme les yeux. Elle rêve d'air, de vide et de lumière, mais c'est la faim qui l'enlace et l'enserre. Elle demande des conseils à Pierre, dont la silhouette est loin d'inspirer la misère. La soupe, lui, est dense en mille volutes. Qui peut résister à des balistos en rut? Prends-les enfin et croque dedans sans peur. La faim n'est pas un ange que l'on prie sans douleur. Oh Anna, c'est cela, cette étrange querelle. Ne sois plus l'ombre, sois le feu qui déploie ses ailes. Choisis la vie, son chocolat, tu es une reine. En tout cas, c'est ce que l'on pense chez Zoom Zoom Zen.
Ou comment bien rattraper le coup de la glotte tout à l'heure. Bien joué, GC. Bien joué, GC. Au petit palais des glaces jusqu'au 28 mars. C'est les jeudis et vendredis. Merci Jean-Victor Blanc de nous avoir aidé à cerner ce mouvement pro-Anna qui fait hélas des émules sur les réseaux sociaux. Je rappelle votre livre Pop and Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. C'est chez Plon. Zoom, zoom, zen.